France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'était avant même les entretiens célèbres qu'il allait accorder à Robert Mallet. Paul Léoto était l'invité d'André Gillois et de son équipe. Un questionnaire auquel il allait répondre brièvement. On comprend que ce questionnaire lui avait été communiqué à l'avance, puis un approfondissement biographique ou psychologique. L'horreur pour Léoto, ou son amusement, de l'écrivain. Écrivain dont le journal littéraire n'était pas encore paru. Les vertus que vous préférez chez les femmes ? On se doute de la réponse. Dostoïevski, un épileptique. Tous les gens qui ont été influencés par lui ont écrit des âneries. Votre père? Mon père n'a jamais été un père. Votre mère? Je ne l'ai pas connue. Les amis qui viennent de mourir? Je me précipite pour les voir sur leur lit de mort. Qui êtes-vous, Paul Léoto? L'homme qui recueillit dans les rues de Paris 300 chats et 150 chiens. Première diffusion sur la chaîne parisienne le 24 décembre 1949.
Mesdames, Messieurs, nous vous prions d'écouter « Qui êtes-vous ?» Une émission d'André Gillois avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, le docteur Martin et Jean-Pierre Morfée. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous ?» Paul Léoto. Émission réalisée avec la collaboration d'Alain Aliou, Maurice Béard et Gaston Morfée. Montage Jacques Guinchard.
C'est aujourd'hui Monsieur Paul Léoto qui veut bien se prêter à notre petit jeu. J'en suis d'autant plus heureux que c'est la première fois que M. Léoto consent à parler devant un micro. Et nous pouvons en être flattés si l'on sait à quel point l'ancien chroniqueur du Mercure de France vit retiré d'un monde qu'il juge depuis tant d'années avec une terrible lucidité. Je vais donc poser à M. Paul Léoto les questions habituelles. Et la première, quel est pour vous le comble de la misère?
Je ne comprends pas cette question.
Alors je passe tout de suite à la seconde. Où aimeriez-vous vivre?
Où je serais encore plus isolé que qu'où je suis.
Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence?
Pour toutes. Je n'ai rien d'injusticier, ni le goût du châtiment.
Quels sont les héros de romans que vous préférez?
Candide, le Bel Rameau, Breton des Ilettes, des Dieux sans soif.
Quel est votre personnage historique favori?
Talleyrand.
Vos héroïnes favorites dans la vie réelle?
Je n'en ai pas.
Vos héroïnes dans la fiction?
La Sanseverina de la Chartreuse.
Votre peintre favori?
18e siècle. Chardin, Pierronneau, Latour, Plus, Courbet, Manet, Constantin Guis, Renoir.
Votre musicien favori?
Trop ignorant en musique.
Votre qualité préférée chez l'homme?
La franchise, le désintéressement.
Votre qualité préférée chez la femme?
Je ne le reconnais pas.
Votre vertu préférée?
La franchise.
Votre occupation préférée?
Écrire ou rêvasser.
Qu'auriez-vous aimé être?
Je trouve très bien ce que je suis.
Quel est l'âge de la vie qui vous semble essentiel?
50 ans.
Avez-vous acquis votre position actuelle par un développement continu de vos tendances et de votre formation ou par une rupture continuelle avec vos précédentes positions?
Par beaucoup de réflexions et un sens critique toujours en éveil.
La forme d'expression qui est la vôtre vous suffit-elle ou avez-vous le sentiment qu'elle vous limite?
Oui, brièveté, netteté, simplicité. Évidemment, je n'ai rien d'universel.
Que regretterez-vous le plus en mourant et comment voudriez-vous mourir?
Tout, pas subitement.
Y a-t-il pour vous plus de plaisir à plaire ou à convaincre ou à provoquer?
Ni l'un ni l'autre.
Y a-t-il un auteur qui vous paraisse représenter la vérité au point de modifier votre opinion suivant la sienne?
Aucun.
Quelle a été la première émotion de votre vie?
Je ne suis pas porté à l'émotion.
À quel âge avez-vous vu pour la première fois un cadavre et quelle a été votre réaction?
À 30 ans, mon père, comique et répulsion.
Pourriez-vous tout quitter, famille, situation, habitude, pour recommencer votre vie?
Je mène ma vie morale et matérielle depuis l'âge de 15 ans et demi. Je n'ai rien à quitter, vivant seul, célibataire et sans enfants, heureusement. Le mot famille est sans sens pour moi.
Aimez-vous la vie dangereuse ?
Non.
Un bonheur vous paraît-il plus grand s'il est public ou s'il est caché ?
Caché.
L'élimination d'un adversaire vous paraît-elle une opération nécessaire ou vous procure-t-elle un plaisir ?
Je ne me suis jamais trouvé d'adversaire comme je n'ai jamais été l'adversaire de personne.
Que feriez-vous si on vous accordait 3 actes de puissance absolue ?
La puissance ne m'intéresse pas ni la domination.
Dans quelle époque auriez-vous préféré vivre en admettant que votre condition vous ait permis d'y participer suffisamment ?
Je me vois assez bien vivant au temps de Voltaire et de Diderot.
Auriez-vous aimé faire un métier manuel et lequel ?
Je tiens ma maison, je fais ma cuisine, je lave mon linge de corps moi-même, c'est presque un métier manuel.
À quel âge avez-vous senti que vous quittiez l'enfance ?
17 ans, si vous voulez.
Voici donc la série des questions habituelles et les réponses que M. Paul Léoto a bien voulu y faire. Alors je voudrais maintenant que nous lui en posions d'autres ou que nous discutions sur ce qu'il vient de nous répondre. Voyons, lequel d'entre vous voudrait poser une question ? Emmanuel Berle.
Je voudrais demander à M. Léoto, à propos de sa dernière réponse, pourquoi il a eu le sentiment que c'est à 17 ans plutôt qu'à un autre âge qu'il a quitté l'enfance?
Parce que c'est à cet âge-là que j'ai commencé à être amoureux.
Ah, l'enfance, pour vous, c'est le moment où on n'est pas amoureux?
Oui.
Oh, c'est pas tellement évident. Moi, je crois que j'ai été amoureux à partir de 4 ou 5 ans.
Oui, moi, je ne suis pas vicieux.
Moi non plus, j'espère.
Docteur Martin.
J'ai été très frappé par le genre de mort que souhaite M. Léoto. Car en général, ceux que l'on interroge au micro dans un cas pareil répondent qu'ils voudraient mourir subitement. À quoi vous fait penser votre réponse ?
Mais c'est que je veux voir, enfin je veux savoir. Enfin c'est intéressant tout de même de songer qu'on va partir.
Bon, est-ce que cette réponse vous satisfait, docteur Martin?
Elle me rend songeur et ne me satisfait pas tout à fait, mais je demande à réfléchir.
Moi, je trouve qu'elle est très naturelle de la part d'un homme qui a toujours fait passer avant toutes les autres les valeurs de lucidité.
Bon, avez-vous d'autres questions à poser, Jean-Pierre Morfait?
J'ai été frappé dans l'œuvre de M. Léoto de son comportement envers les cadavres, cette sorte de curiosité qu'il montre non seulement devant le cadavre de son père, mais devant le cadavre de François Copé, par exemple. Et je voulais lui demander s'il pensait que l'exercice de ce sens critique appliqué même au cadavre venait de ce qu'il avait vu très tard pour la première fois un cadavre, et s'il pensait que son attitude serait différente s'il en avait reçu le choc dans sa première jeunesse.
D'abord, je n'ai jamais reçu de choc de la mort. Ensuite, j'ai toujours eu une très grande curiosité de la mort. Voilà, chaque fois que quelqu'un de mes amis est mort, j'ai toujours fait l'impossible pour le voir. Charles-Louis-Philippe, par exemple. Et quand Valéry est mort, je me suis précipité chez Valéry pour le voir sur son lit de mort. Enfin, n'est-ce pas, c'est le dernier personnage, la dernière forme. Ouais, ça m'intéresse énormément.
Mais vous pensez que cette dernière forme se relie au personnage vivant, ou est-ce qu'elle vous paraît au contraire un objet dérisoire que le vivant laisse après soi ?
Non, je vous dis, c'est pour voir le dernier aspect de quelqu'un que j'ai connu.
Docteur ?
Je vous demanderai en toute simplicité si vous avez peur de la mort, ou peur de mourir, vous ?
Je n'aime pas beaucoup cette perspective, et je trouve bouffon de s'en aller après être venu. Et je suis dans un état de révolte à l'égard de la mort.
Morfait.
Je sais qu'il est arrivé à M. Léoto une histoire assez singulière pour le personnage qu'il est et pour les curiosités qu'il a. C'est que la nouvelle de sa mort ayant été répandue à tort en 1941, il a pu lire ses articles nécrologiques. Puis-je vous demander quel a été votre sentiment ?
Une surprise énorme ! Car enfin, n'est-ce pas, les gens me croyaient mort et j'ai pu penser que ce qu'ils écrivaient était sincère. Il n'avait plus à me flatter, n'est-ce pas, que j'étais mort. Mais je n'en suis jamais revenu, ça.
Mais vous-même, votre personnage d'après-mort, si je puis dire, avez-vous considéré qu'il y avait eu à ce moment-là, en somme, une rupture dans votre vie et que vous recommenciez autre chose ?
Oh non, je n'ai pas eu des réflexions aussi philosophiques que ça. Non.
Monsieur Paul Léoto, alors je voudrais vous poser une question d'un autre ordre. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'ayant pas de famille, vous ne pouviez pas envisager d'avoir à quitter ou ne pas quitter votre famille. Mais vous adorez les animaux.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez envisager de quitter les animaux qui vous entourent ?
J'ai déjà pris soin depuis quelque temps, étant donné l'âge que j'ai, d'avoir le moins de bêtes possible pour en laisser le moins à ma mort. Et ils sont à l'avance placés.
Alors je voudrais vous poser une autre question du même ordre. Vous avez dédié votre livre sur l'amour au chat Miton. Et je voudrais vous demander, en dédiant ce livre à un chat, à quel sentiment cela répondait chez vous ?
Cette dédicace est une périphrase. Vous comprenez ?
Bon. Avez-vous d'autres questions, Jean-Pierre Morfait ?
Je voudrais demander à M. Léoto, non pas le moins du monde pour ouvrir un débat historique, mais pour lui demander de s'expliquer un peu plus sur le personnage, comment Talleyrand peut venir comme héros réel entre les personnages de la fiction qui en sont si différents, comme Candide ou le neveu de Rameau d'une part, ou comme la Sainte Séverina.
Ah, je tiens Talleyrand pour un homme d'esprit prodigieux. Je le tiens pour un homme n'ayant jamais eu aucune conscience, pour s'être accommodé de tous les partis. Et puis, il y a ce mot de lui, regardez, pas de sang sur les mains. Maintenant, vous connaissez le mot de Talleyrand à la Bessièyes, alors qu'au début de la Révolution, il célébrait une messe, je ne sais pas à quelle occasion. Et alors, Talleyrand était à l'hôtel qui officiait, et la Bessièyes était sur le côté, et Talleyrand lui a dit, ne me fais pas rire.
Mais comment pouvez-vous aimer ce personnage qui s'accommode de tout le monde, alors que visiblement, vous ne vous accommodez de personne?
Je trouve très beau de n'avoir aucune conscience. Non, je trouve qu'il y a là une libération.
Je vous parlais de l'accommodement, de la compromission, de la...
Eh bien, quoi ? C'est un manque absolu de dogmatisme.
Je n'ai pas compris si, quand vous dites que votre personnage préféré avec Candide, c'est le neveu de Rameau, c'est réellement le neveu de Rameau que vous aimez ou si c'est Diderot ?
Non, le personnage, enfin, c'est le neveu de Rameau tel qu'il s'exprime dans chez Diderot.
Oui, ce n'est pas le personnage de Diderot lui-même, parce que je suppose que vous devez beaucoup aimer Diderot.
Uniquement ça. Uniquement le neveu Rameau.
Oui.
Le reste ne m'intéresse pas.
Pourquoi ?
Parce que les lyriques, plein d'effusions, que je n'aime pas. Je n'aime pas le sentiment en littérature.
Non, je voulais vous demander si vous avez toujours été ainsi. Avez-vous l'impression d'être devenu ?
Ah, c'est-à-dire que j'ai commencé, je crois, en 1905, vraiment, avec Immémorial.
Mais pour vous faire ce que vous êtes, est-ce que vous êtes différent de ce que vous étiez dans votre enfance, ou bien est-ce que vous avez subi une évolution entièrement normale ? Est-ce que vous avez l'impression que vous étiez entièrement préformé, ou qu'il y a un ou plusieurs événements extérieurs qui ont contribué à vous rendre ce que vous êtes ?
Non, je ne vois rien à répondre là-dessus, non. Non. N'est-ce pas ? J'ai eu la chance... J'ai débuté au Mercure en 1895. J'ai eu la chance de tomber sur un homme, Alfred Valette, à qui je dois tout comme écrivain et qui m'a toujours laissé la plus grande liberté. J'ai écrit à cette époque-là des choses dans Mercure que nulle part ailleurs on ne m'aurait prise. Voilà. Ainsi, regardez, quand j'ai publié « In Memoriam » dans le Mercure, c'était un récit satirique presque de la mort de mon père. Il est arrivé 45 désabonnements en 3 mois. Parce qu'il y avait non seulement les abonnés français, mais il y avait les abonnés des colonies. Il a fallu le temps qu'ils reçoivent le Mercure et le temps qu'ils envoient leur désabonnement. Monsieur Valette s'est contenté de dire, cela se désabonne, d'autres s'abonneront.
Oui, ça c'est très bien.
Voilà.
Non mais d'où vient et de quand vient votre désir très grand d'isolement, votre...
Oh, j'ai toujours été comme ça. Quand j'étais enfant, je vivais sous la table de la salle à manger, sans jouer, sans rien. On ne pouvait pas mentir. Et à Paris, par exemple, pour des martyrs, le père Léoto, à la rue Milton, avec des sous, tâchait de racoler des gamins pour me tirer de là. Il n'y avait rien à faire.
Docteur Martin.
Au moment où M. Léoto parlait d'In Memoriam et de son père, j'allais précisément lui demander en quels termes il avait été avec son père. Parce que ceci me fait penser à quelque chose relatif au thème des cadavres et de la mort.
Mon père n'a jamais été un père. C'était un pilier de café, un homme de théâtre, non.
Est-ce que sa mort ne vous a pas, en quelque sorte, apporté comme une espèce de soulagement?
Oh, non. Non, il a eu une mort très pénible, n'est-ce pas? Je suis resté 4 jours et 5 nuits, et la nuit avec une bougie assis à son chevet, et à le regarder mourir. 4 jours et 5 nuits.
Mais ne croyez-vous pas que vous avez pu éprouver en même temps une douleur réelle et en même temps un soulagement que peut-être vous n'essayez pas pénétrer jusqu'à votre conscience?
Je vous dis, je n'ai jamais. Je suis incapable de rancune et d'antipathie. Non. J'avais la curiosité.
Et à cet âge fameux de 17 ans, et ensuite, vous êtes-vous approuvé, méprisé ou constaté amoureux?
Non.
Approuvé?
Je n'ai jamais aimé physiquement. Je l'ai écrit il n'y a pas longtemps. J'ai eu, si vous voulez, 2 passions dans ma vie.
Mais les avez-vous approuvées, désapprouvées, méprisées, acceptées?
Quand on est attiré par une femme, on n'examine pas si on a raison ou tort. Je peux dire ceci, n'est-ce pas? J'ai eu 2 grandes passions qui ont duré assez longtemps. Eh bien, l'objet de cette passion aurait pu mourir, ça ne m'aurait rien fait. Je n'ai jamais aimé physiquement.
Est-ce que vous avez l'impression que votre indulgence, votre hostilité à tout ce qui est jugement et condamnation vient de la capacité de solitude qui est la vôtre, de sorte que vous ne vous sentez pas trop atteint par les autres?
Non, je vous dis, je n'aime pas les justiciers, je n'aime pas ça.
Oui, j'entends bien.
Ainsi, j'ai reçu il y a quelque temps la visite d'un nommé Lévy, je crois, qui dirigeait une sorte de brochure de compte-rendu qui s'appelait Paru, je crois. Je lui ai dit, écoutez, c'est la vérité. Devant ma porte, dans la rue Guérard, je verrai un individu en assassiner un autre, ça ne me regarde pas, je rentre chez moi.
C'est bien ce que je dis. Est-ce que vous ne croyez pas que votre indulgence...
Mais c'est
général,
pas l'indulgence, c'est de la différence.
C'est ça. Ça tient à ce que vous avez l'impression que ça ne peut pas vous atteindre.
Oh, c'est pas ça, c'est pas un point de vue d'égoïsme. Je ne suis pas chargé de... Je ne suis pas chargé de l'ordre de la société.
Ah oui, mais si vous vous sentez vous-même attaqué...
Oh, ma porte est toujours ouverte, ou vous ne me redoutez rien. Jour et nuit, ma porte est ouverte. Non. Je trouve que vous compliquez les choses, n'est-ce pas? Je trouve qu'il y a chez moi, si vous voulez, plutôt, une sorte d'instinct, il y a des choses qui ne me plaisent pas.
Docteur?
Oui, je crois que...
J'allais d'ailleurs vous demander, pardon, pourquoi vous appréciez plus la franchise que la duplicité? Au nom de quoi?
Je n'aime pas les complications.
Docteur?
Je voudrais faire remarquer à M. Léoto 2 curieuses correspondances entre, d'une part... la position qu'il affectait quand il était petit sous la table, où il était en somme déjà retiré du monde extérieur, d'où on avait beaucoup de mal à l'en tirer, et l'attitude qu'il aurait, par exemple, en voyant quelqu'un assassiner une autre personne. Dans les 2 cas, il y a un refus de se mêler aux activités du monde extérieur.
Oui.
De même, je m'excuse de revenir de nouveau sur ce thème de la mort, qui est tout de même un des plus importants parmi ceux que vous nous avez exposés, c'est que vous ne voudriez pas mourir subitement... et que votre père n'est pas mort subitement non plus.
Non.
À quoi ça vous fait penser, ce parallélisme?
Oh, ça me fait penser à rien, je vous dis. Je ne veux pas mourir subitement parce que je veux me rendre compte, enfin. Maintenant, naturellement, n'est-ce pas, je risque certainement de rester 4 ou 5 jours sur mon lit mort sans que personne ne le sache, puisque je vis seul.
D'ailleurs, vous venez de nous faire remarquer que votre père a mis 4 ou 5 jours pour mourir.
Oui, mais il était dans un état que moi je n'aurais pas, parce que moi je n'ai pas été un ivrogne et un coureur de femmes, enfin.
Jean-Pierre Marchais.
Je voudrais demander à M. Léoto s'il pense que l'absence de passion qu'il montre dans l'amour vient de ce qu'il a participé de bonne heure à la vie des dames galantes, ou si au contraire il pense qu'il y a naturellement été conduit à se mêler à elle, justement parce qu'il n'avait pas de passion.
Je n'ai connu vraiment, enfin, la passion physique, qu'à 42 ans. Parce que j'ai toujours pensé qu'en amour, homme ou femme, on doit trouver son numéro. Alors, il y en a qui ne le trouvent jamais. Moi, je l'ai trouvé à 42 ans. Voilà. Alors, la passion, je vous dis, n'était que physique. Voilà. La preuve, c'est que je vous dis, n'est-ce pas, l'intéressé aurait pu mourir, je m'en fichais complètement.
Mais avez-vous, je vous prie, le sentiment, vous souvenez-vous que dans votre jeunesse, j'entends aux environs de cette 17e année, une jeune fille du même âge vous est témoignée de l'amour. Avez-vous reçu, si je puis dire, la provocation d'un autre amour?
Je vous dirais que, n'est-ce pas, c'est bien drôle à dire, ça n'est jamais moi qui ai commencé.
Voilà. Docteur,
pourrais-je demander à Monsieur Léoto si, en laissant la question purement physique de côté, il a éprouvé un sentiment d'aimance ou de la tendresse pour une femme avant l'âge de 42 ans, tendresse qui n'aurait pas été mélangée à de l'amour physique?
Jamais. Je n'ai jamais éprouvé de tendresse pour une femme.
Et pour votre mère?
Je ne l'ai pas connue. Je l'ai vue 8 jours dans ma vie. Quand elle est morte, que j'ai appris ça par du mur au Mercure, j'étais à Pornic à cette époque-là. Et du mur m'a envoyé un numéro du journal de Genève, on publie les décès dans les journaux suisses. Et j'ai vu là qu'on annonçait la mort de Madame Ultramar. Et ben, elle était morte, et puis voilà tout.
Quel âge aviez-vous?
C'est en 1915, j'avais 42 ans.
Ça coïncide un peu avec la découverte de l'amour physique. C'est à peu près au même âge, si je ne l'avais
pas. Mais ça n'a aucun rapport.
Non, nous marquons une concordance de date sans plus.
Si vous voulez.
Et puis-je vous demander à quel âge vous avez cessé de voir votre mère?
Mais je vous dis, j'ai vu ma mère quand elle venait à Paris. Ma mère était comédienne, n'est-ce pas? Alors, de temps en temps, elle passait par Paris, et alors, elle venait me voir, rue des Martyrs. Je me rappelle, me promener au jardin d'acclimatation à Michel Strogoff, ça. J'avais les yeux par terre, je disais, oui, madame, certainement, madame. Voilà, comme j'allais.
Et il n'a pas connu.
La preuve, c'est qu'un jour, rue des Martyrs, qu'elle venait, j'avais à cette époque-là une vieille bonne, que mon père avait pas exprès pour moi, puisque lui, il était célibataire, et elle a fini par dire, mon Dieu, que cet enfant est donc désagréable.
Et ces sentiments d'aimance, comme dit le docteur Martin, que vous n'avez pas eu pour des femmes, est-ce que vous les avez eus pour des amis?
Non, mes amis sont plus mes amis que je ne suis leur ami. J'ai une sale nature.
Oh, je ne le crois pas.
Je crois qu'il est facile d'essayer de vous montrer tout au moins que, tant du côté de votre père que du côté de votre mère, vous avez éprouvé toujours de très intenses frustrations. Et que votre attitude sentimentale n'est qu'une compensation, qu'un mécanisme de défense destiné à vous protéger contre d'autres frustrations possibles.
Non, il ne m'en frustrait de rien.
Monsieur Léoto n'attendait rien.
Oui, je n'ai aucune rancune contre mon père.
Consciente, car on attend toujours quelque chose quand on est petit.
Il n'y a qu'une chose, tenez, il n'y a qu'une chose. Enfin, mon père ne s'est jamais occupé ni de mes études, ni rien du tout, ni de ma santé, ni rien. Il n'y a qu'une chose que je ne peux pas arriver à pardonner à cet homme, c'est ceci. Mon père était premier souffleur à la Comédie Française. Au jour de l'an, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 14 ans, le jour de l'an, le père Léoto m'emmenait à la Comédie Française et aux entr'actes, sous la menace de claques, il m'obligeait à aller souhaiter la bonne année à telle sociétaire, Bianca, Barretta, etc. Et alors, j'en recevais 100 francs, 500 francs. 50 francs, il empochait. Voilà. Ça, avoir obligé un enfant, timide comme j'étais, à la mendicité, je ne peux pas oublier ça.
Je voudrais vous poser une autre question, monsieur Léoto. Vous avez écrit dans une de vos chroniques, Alceste doit faire rire. Est-ce que cela vous empêche d'être misanthrope?
Non. Mais Alceste doit faire rire, si vous voulez, le commun des mortels. Mais c'est un personnage extrêmement douloureux.
Oui.
Je trouve que le misanthrope, il y a des côtés... non, plutôt dans l'école des femmes, il y a des côtés de tragédie, oui. Mais le misanthrope... Non. Il doit faire rire parce que les gens... Les gens l'ont peut-être pas... C'est sa franchise qui fait rire.
C'est ça.
Mais quand vous avez dit que le misanthrope devait faire rire, je pense que vous vous êtes surtout placé au point de vue du critique dramatique, que vous pensez que c'est comme ça qu'on doit jouer le misanthrope, n'est-ce pas?
Ah non, c'est au point de vue humain.
Ah oui.
Ouais. Moi, il ne me fait pas rire.
Alors, s'il ne vous fait pas rire, pourquoi voulez-vous qu'il fasse rire les autres?
Parce qu'il a un comportement opposé à celui que les autres ont généralement.
Oui. Mais enfin, nous marquons premièrement qu'il ne vous fait pas rire, et deuxièmement que vous trouvez qu'il doit faire rire les autres.
Oui. Enfin, j'admets. J'admets qu'il fasse rire.
Ah oui, mais vous ne le souhaitez pas.
Ah non, je souhaiterais, non. Je souhaiterais plutôt qu'on constate que c'est un personnage douloureux.
Ah oui.
Alors, je voudrais aussi revenir un petit peu au thème des animaux, puisque vous les aimez beaucoup. Quels sont les animaux que vous avez aimés? Et est-ce qu'il y a des raisons qui vous poussent vers tel ou tel animal?
J'ai vu au moins 300 chats, 150 chiens, pas tous à la fois, tous ramassés dans les rues de Paris. Je n'ai jamais fait d'élevage. Quand il y avait des portées chez moi, elles allaient au baquet parce qu'il m'intéressait plus de recueillir des animaux en péril que d'élever des choses qui sont sauvées. Voilà. Et tous mes animaux sont enterrés dans mon jardin. Ils ont tous vécu là. J'avais une bonne à cette époque-là.
En somme, on peut dire que vous recueillez les êtres abandonnés, mais que vous ne tenez pas...
Mais je ne recueillerai pas des enfants.
Et vous ne tenez pas à élever des petits animaux qui viennent de naître?
Oh non, non, dans les deux cas, n'est-ce pas? Vous savez, quand un chat naît, ça n'a pas de regard, c'est gros comme un index. Tandis que l'animal que je trouve de 6 mois ou d'un an, n'est-ce pas, en péril pour chasser, n'ayant pas de nourriture, il est plus intéressant.
Mais en dehors des chiens et des chats, vous avez, je crois, une guenon.
J'ai une guenon qui s'est perdue dans mon jardin et j'ai gardé. Mais quand je trouve un... J'ai un très grand jardin, j'ai 1800 mètres de jardin qui n'a jamais été touché. Tout pousse comme ça veut. Quand je trouve un escargot dans l'allée, je le jette dans les taillis. Je m'en voudrais d'écraser volontairement un escargot. Sous ce rapport-là, je suis une vieille concierge.
C'est... Mais il y a tout de même eu des animaux que vous avez plus particulièrement aimés.
Ah ben, n'est-ce pas, il y a chez les animaux comme chez les humains des êtres qui sont plus démonstratifs, plus charmants, plus intelligents même.
Mais alors cette distinction que vous faites entre les animaux, vous le faites plus difficilement entre les hommes.
Oh, je ne sais pas.
C'est-à-dire que vous vous êtes attaché plus facilement à certains animaux. Et alors, quand ces animaux sont morts, quelle a été votre réaction?
Oh, un très grand chagrin.
Un très grand chagrin.
Il semble évident que M. Léoto a déplacé sur la tendresse relative aux animaux tout l'énorme potentiel de tendresse qu'on sent chez lui camouflé et qu'il n'a pas pu utiliser vis-à-vis du genre humain. Car votre attitude vis-à-vis des chiens et des chats abandonnés est tout à fait une attitude d'homme envers des humains.
Mais si cette attitude envers des humains, vous avouerez qu'elle est souvent intéressée. Tandis que moi, il n'y avait pas d'intérêt.
Oui, vous considérez que le sentiment pour les animaux est plus pur. Et c'est pour ça...
Mais je pense qu'on ne risque pas d'être jugé par les intéressés.
Non.
Si, il peut être jugé. Ils ont bien un jugement, les animaux, qui manifestent en fuyant, par exemple.
Je voulais justement demander à M. Léoto s'il avait, lui, appliqué son jugement à ces animaux. C'est-à-dire, s'il avait observé la société de ces animaux, puisqu'ils sont assez nombreux pour constituer une société, comme il observe la société des hommes, et s'il avait, à leur égard, exercé sa réflexion et son sens critique.
Il y a les mêmes différences. Par exemple, les chats, n'est-ce pas, il y en avait qui vivaient seuls, qui se promenaient seuls, qui mangeaient seuls. D'autres qui étaient par groupe de 4 ou 5. Enfin, il y a entre les sympathies qu'il peut y avoir entre les humains et les hostilités.
Et ça ne vous a jamais rapproché des humains?
Non. Donc je vous dis que je... Non. Ça, oui. Non.
Mais la tendresse que vous vous êtes toujours appliqué à ne pas éprouver pour des êtres humains...
Mais je ne me suis pas appliqué, c'est naturel.
Bon, mais cette tendresse, ne l'avez-vous pas éprouvée pour des personnages imaginaires?
Oh non, ça je ne divague pas.
Non, mais vous rêvassez. Vous rêvassez.
Ah oui, mais je ne l'ai pas. D'abord, j'ai pas d'imagination.
Non, mais pour des personnages, pour des héros de romans ou
oh,
de
non,
pièces
non,
de théâtre.
Non, tout de même. Non. Non.
On peut faire remarquer que 300 chats et 150 chiens constituent déjà une masse humaine d'un tel volume qu'elle peut suffire à des épanchements sentimentaux considérables.
Et pour vos livres, vous n'avez pas une tendresse?
Oh non. Non. J'ai écrit pour moi parce que ça m'amusait, passe-temps, uniquement.
Et pour les livres que vous possédez, ceux d'autrui?
Non.
Non.
Vous savez, j'ai donné tout à l'heure que l'héroïne du roman, la Saint-Séverine, je suis arrivé à me foutre pas mal de la chaffe, ça ne m'intéresse plus.
Mais la Saint-Séverine, tout de même.
Non, je me suis reporté un peu dans le passé, mais tout ça m'est égal aujourd'hui. J'ai horreur des romans.
Et comment avez-vous été amené à penser à la Saint-Séverine?
Ah, parce que... non, n'est-ce pas? Vous m'avez demandé ça. Alors, je me suis rappelé que vraiment, n'est-ce pas, comme je l'ai écrit, la Saint-Séverine dont nous avons tous été amoureux, voilà, dans le passé.
À quel âge avez-vous lu la Chartreuse de Parme?
Oh, j'ai lu la Chartreuse de Parme, j'avais 25 ans.
Jean-Pierre,
je l'ai relu souvent. Mais ça ne m'intéresse plus.
Je voudrais demander à M. Léoto si son jugement sur les hommes n'a pas pu être faussé, si j'ose dire, par ceci. C'est que lui-même, agissant uniquement par plaisir et n'écrivant, entre autres choses, ce qui est son activité essentielle, que par plaisir, il n'a pas été amené à penser que les autres, sous des masques différents, d'héroïsme, de courage, de dévouement, n'agissaient aussi que par plaisir.
C'est bien compliqué comme question. D'abord, n'est-ce pas... Je crois que la plupart des gens qui écrivent par intérêt matériel. Je trouve que ce qu'on appelle la littérature alimentaire est méprisable.
Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs, c'est ce que vous consignez dans votre journal sur les écrivains contemporains. Mais vous semblez ne pas avoir le même sentiment pour les écrivains du passé.
Les écrivains du passé étaient peut-être moins intéressés au point de vue de l'argent.
Oh, puis les écrivains du passé sont l'objet d'une sélection.
Oui. Ouais.
D'ailleurs, il me semble difficile de commencer à écrire par intérêt matériel. Une fois que le tirage est venu, alors qu'on n'est jamais en droit de l'espérer, on peut continuer à écrire. Mais ne croyez-vous pas qu'un homme qui commence à écrire, qui décide d'écrire, ne le fait jamais par intérêt matériel?
Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, c'est le contraire qui se montre. Ainsi, j'ai noté, dans un fragment de journal qui va passer, il y a une maison, rue de l'Université, qui s'appelle Julliard, Lafont et un troisième. Cette maison, il y a là-dedans des gens qui n'écrivent que pour les prix.
Oui, pour ça. Ah oui, mais ne croyez-vous pas que c'est la maison, disons, en généralisant l'institution qui a corrompu les hommes, mais que tout jeune auteur qui commence à couvrir une page vierge ne le fait jamais par intérêt matériel?
Ah, aujourd'hui, si.
Mais Balzac disait déjà la même chose, et ça nous met déjà à 100 ans plus tôt, qu'il y avait beaucoup d'écrivains qui écrivaient que par intérêt matériel, ayant découvert que acheter pour 50 francs de papier et le revendre pour 5000 francs était une des opérations les plus avantageuses qu'on puisse faire. Je crois que c'est dans les illusions perdues.
Je crois que le problème est moins simple qu'il ne paraît, car même chez l'écrivain qui écrit par intérêt matériel, il peut trouver dans le succès matériel des satisfactions qui n'ont pas uniquement trait à l'argent, car l'argent a une très grosse valeur symbolique. Le prix où l'argent symbolise la puissance et la réussite, et la puissance sous tous ses aspects. De sorte que on ne peut pas schématiser et mettre dans un tiroir les écrivains purement désintéressés qui ne travaillent pas pour de l'argent, et dans l'autre tiroir, les écrivains qui travaillent uniquement dans un but alimentaire. Le problème est infiniment plus nuancé à mon sens.
Mais Alors, il ne vous vient pas l'idée que tous ces écrivains qui écrivent pour un prix savent ce qu'il faut mettre dans un livre pour avoir le prix?
Il y en a beaucoup qui se trompent, par exemple.
Oui, mais enfin, croyez-vous que les gens qui écrivent pour l'Académie Goncourt n'ont pas bien réfléchi à tout ce qu'il faut mettre dans un livre pour séduire ces messieurs?
Oui, mais ils se trompent, il n'y a pas de formule assurée du succès, ce serait trop beau.
Je voudrais poser à M. Paul Léoto une question relative à Dostoïevski. Je crois savoir qu'il n'aime pas Dostoïevski. Et je voudrais savoir pourquoi.
Je trouve que c'est un épileptique, un écrivain pour gens enfermés dans les cabanons, qu'il vaut mieux ne pas le lire. Enfin, non. Je n'aime pas les déséquilibrés, je n'aime pas ça. Voilà. Et comme je l'ai dit, je ne sais plus, ah oui, là aussi, là-bas. Tous les gens, ah ben je l'ai dit dans l'article sur le combat, tous les gens qui ont subi l'influence de Dostoïevski ont écrit des âneries. Gide, avec ses câbles du Vatican, le bonhomme par le train, n'est-ce pas, etc. Duhamel, avec son roman Feuilleton des Salavins, n'est-ce pas. Puis alors, c'est une monde bébé de Montparnasse. Voilà. Non, je n'aime pas ça.
Mais votre hostilité est-elle plutôt pour l'influence qu'a exercé Dostoïevski que pour lui-même?
Oh, il m'est antipathique.
Oui.
Il m'est antipathique.
Parce qu'il y a de très... On peut être un très mauvais maître et un très bon artiste, n'est-ce pas?
Oui, oui. Non, il m'est antipathique. Tous les déséquilibrés me sont antipathiques. J'ai une sorte de haine pour ces gens-là.
Mais pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure sur la tendresse ou l'amitié que vous pourriez avoir pour des personnages imaginaires, vous avez répondu que vous n'en aviez pas et que vous aviez horreur des romans, mais vous n'avez pas horreur du théâtre. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir pour des personnages de théâtre une amitié ou une attirance, une tendre, enfin une...
Enfin, n'est-ce pas, je suis certainement extrêmement intéressé, pénétré, par exemple, par Alceste et par Arnolphe.
Oui.
Énormément. De même par Figaro, n'est-ce pas, que je trouve une chose, étonnante.
Et le cinéma ne vous a
pas... Oh non, rien. Le dégoût complet. Je le sais, vous n'avez pas lu dans le Figaro sur la façon dont on a arrangé Paul Bucourier au cinéma?
Ah non, je ne l'ai pas lu.
Vous l'avez lu?
Oui, le film de... L'affaire des sept péchés, c'est ça.
Enfin, c'est peut-être un mauvais film.
Mais tenez, je tiens Valéry pour un mauvais écrivain, parce que il a écrit, à la mort de Mallarmé, « Le ravissement de Mallarmé me laissa sans un mot », pour ne pas écrire « La mort de Mallarmé ». Eh bien, quand on prend des livres comme ça, on est un mauvais écrivain.
Je voulais demander à M. Léoto, qui nous a dit combien il était intéressé par les personnages d'Alceste et d'Arnolphe, s'il n'y a pas tout de même chez lui, et j'ai cru le constater d'ailleurs dans son œuvre, une très grande admiration pour Molière, et je voulais lui demander ce qu'il pensait de l'homme Molière, qui est justement un homme constamment agité de passions, et de passions amoureuses.
Oh ça, j'ai une vénération pour Molière.
Passions amoureuses comprises.
Oui, l'homme.
L'homme, justement, l'homme.
Enfin, cet homme qui a été constamment dupé en ménage, n'est-ce pas? Et qui a mis tant de choses de lui dans ses personnages.
Attends, n'est-ce pas? Il a éprouvé des passions, mais il n'en a pas été dupe.
Oui, mais vous dites ma passion, c'est une physique.
C'est ça.
Alors le moral n'a rien à y voir.
Eh bien, je vous remercie, Monsieur Paul Léoto. Je pense que nous vous avons assez ennuyé comme
mais
ça.
Mais non, je trouve ça très drôle, moi.
Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'apporter de conclusion à cet échange de propos, tant il ressort avec évidence que la misanthropie de M. Léoto tire son origine d'une enfance effrayante dont il nous a parlé lui-même avec son implacable franchise. De ce caractère intransigeant, il a tiré toutes les conséquences sans reculer jamais, ce qui lui a permis de réaliser une œuvre littéraire dont l'importance apparaîtra sans doute de plus en plus grande, surtout quand on connaîtra le journal que M. Léoto rédige depuis 50 ans et que le monde littéraire attend avec impatience et angoisse. J'imagine que de nombreux auditeurs auront été choqués de l'entendre s'exprimer avec une aussi complète liberté d'esprit, mais je suis heureux d'avoir eu cette occasion unique de faire connaître à ceux qui l'ignoraient encore l'existence de ce grand écrivain et de ce personnage extraordinaire.
Vous venez d'entendre « Qui êtes-vous ?», une émission d'André Gillois, avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, le docteur Martin et Jean-Pierre Morphy. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous ?», Paul Léoto. Émission réalisée avec la collaboration d'Alain Alliou, Maurice Béard et Gaston Morphy. Montage Jacques Guinchard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 24 décembre 1949. Depuis lors, le journal littéraire de Paul Léoto est paru. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».